Alors, nous sommes avec Mathieu des Apatrides Anonymes. Alors, bonjour Mathieu.
Salut Christian, ça va?
Oui, alors le micro est à toi.
Merci beaucoup. On aurait pu parler de plein de choses aujourd'hui. Il se passe tellement de trucs au niveau des questions d'immigration, sécurité nationale et racisme. De toute façon, les sujets d'aujourd'hui étaient déjà un peu là-dessus. Il y a deux semaines, Simon vous a parlé de ce qui se passait dans les pays scandinaves, qu'on entend moins souvent au niveau des politiques d'immigration. Faites un bon topo. Là, il s'est passé beaucoup de choses. Ben, les gens ont suivi dans l'actualité peut-être des petits bouts. Je vais essayer de parler de certaines choses peut-être que les gens ont moins vu. On a su quand même hier qu'il y avait eu en 2015 en Europe officiellement 1 250 000 demandes de statut de réfugié. Ça c'est moins que le nombre de personnes qui se sont rendues en Europe, venant des pays entre autres du Moyen-Orient. Mais au moins 1 250 000 demandes, ça veut dire qu'il y a peut-être 2 à 3 millions de personnes qui ont circulé en Europe en 2015 à la recherche d'un asile. Dans le contexte aussi du démantèlement, ce qu'on a appelé entre guillemets la jungle de Calais dans les dernières semaines, qui a fait grand bruit aussi dans les médias, donc en France. Et aujourd'hui, un sommet de l'Union européenne avec la Turquie pour dealer une espèce de pacte pour que les Turcs gardent les migrants versus de l'argent. Tout ça dans le contexte où, comme tu sais, j'imagine, le gouvernement turc est en train de fermer tout ce qui est opposition, y compris les Kurdes, évidemment, les médias, etc. Donc, un contexte assez particulier. Peut-être pour situer les gens, au début février, il y a eu une annonce de plus de 400 personnes qui étaient mortes noyées dans la Méditerranée. Donc, on parle de 400 personnes depuis le début janvier, donc en un mois, ce qui est assez énorme. Même si les gens prennent la traversée qui est officiellement moins dangereuse que celle de l'Italie, celle d'arriver en Italie, mais bien pour la Grèce. Mais on parle quand même du 3/4 des pertes de vie qui se sont faites entre la Turquie et la Grèce versus 1/4 entre la Libye et l'Italie. Depuis le début de l'année, plus de 100 000 migrants sont arrivés en Europe en traversant la Méditerranée. Donc, on parle donc plus de 100 000, donc plus de 102 000 en Grèce et plus de 7 500 en Italie. Et en 2015, ce chiffre avait été atteint au mois de juin. Là, on est au mois de février, donc on voit vraiment que ça continue de façon assez exponentielle. Et ça avait été en 2015 une augmentation par rapport à 2014, par rapport à 2013, etc., etc. Actuellement, les chiffres officiellement, c'est les gens qui viennent de la Syrie sont là pour 41% des migrants. Afghanistan, 27%. Irak, 16%. Iran, 4%. Et Pakistan, 3%, en plus de d'autres pays aussi. Dans la dernière semaine et demie, plusieurs pays ont fermé leurs frontières, comme on a vu dans les médias. C'est l'Autriche un peu qui a parti le bal en disant qu'elle allait fermer sa frontière à un nombre beaucoup plus réduit de migrants et qui demandait aux pays des Balkans qui sont sur la route entre la Grèce et son pays de faire de même. Donc, l'Autriche a dit qu'elle accepterait seulement 37 000 réfugiés cette année en 2016 par rapport à 90 000 l'an dernier. Donc, on voit déjà les chiffres. Et en se disant préoccupé des conséquences sur les pays comme la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie et la Grèce. Donc, ça a un peu lancé le bal, ce nouveau bal, je pourrais dire, il y a 2 semaines environ. Les autorités grecques, qui sont le premier pays souvent où les gens arrivent, ont demandé la semaine passée aux compagnies maritimes, aux agences de voyage, de réduire le transport de réfugiés entre les îles où les gens arrivent et le continent, donc la Grèce continentale. Évidemment, c'est en réaction au renforcement des contrôles imposés par l'Autriche et les pays dont je viens de parler. La Grèce parle d'un piège à migrants qui est en train de se former dans son pays, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas monter plus haut que la Grèce. Il y a eu aussi une réunion des pays des Balkans qui ont, la semaine passée toujours, les mêmes, l'Autriche et les autres, limité à 580 par jour le nombre de migrants autorisés à transiter par les 5 pays, donc entre la Grèce et l'Autriche, qui est très, très peu. On sait qu'en octobre dernier, quand la Hongrie a fermé ses frontières avec la Croatie, plus de 475 000 migrants sont arrivés en Slovénie, petit pays qui en a été débordé en quelques jours. Donc, c'est le même modèle qui risque d'arriver en Grèce. Toujours dans la même veine de répression et de contrôle, le Parlement slovène a autorisé l'envoi de l'armée à la frontière croate pour aider la police pendant 3 mois. Donc, le gouvernement grec, avec les négos qui se passent cette semaine, menace de bloquer le processus de décision au sein de l'Union européenne parce qu'il y a toujours un espèce de système de quotas qui est supposé se faire, bon, qui est contesté aussi, mais où chaque pays doit se répartir un peu les migrants et il n'y a toujours pas d'entente là-dessus, toujours pas d'issue à court terme là-dessus. On a vu la semaine passée les migrants à la frontière gréco-macédonienne qui ont essayé de forcer des passages. Ils ont fait répondre par des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles de caoutchouc. Ils ont bloqué aussi en Grèce plusieurs lignes de chemin de fer pour contester leur blocage à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Donc, ça commence à brasser quand même, avant même que d'autres arrivent. Il y en a 30 000 qui sont bloqués actuellement en Grèce, dont 13 000 à la frontière même, qui sont dans des conditions assez atroces, qui campent carrément dans les champs ou dans les fossés. Quelques groupes leur donnent un peu de nourriture, un peu d'aide médicale, mais c'est vraiment limité. La Bulgarie, qui est à côté de la Macédoine, et la Grèce a décidé d'envoyer des centaines de policiers à sa frontière. Donc, un gouverneur grec qui a demandé de déclarer l'état d'urgence dans la région entre la Grèce et la Macédoine, parce que c'est vraiment ce qui arrive actuellement. Et la Grèce, a décidé de transférer des gens qui sont pris à la frontière en autobus vers Athènes, dans d'autres camps temporaires. On voit vraiment que c'est assez coincé. Et la Macédoine a décidé en fin de semaine que les Afghans rentraient plus, seulement quelques Syriens, quelques Irakiens. Et là, ils ont décidé que seulement certains Syriens de villes en guerre officiellement comme Alep allaient rentrer, non pas ceux qui viennent d'autres régions. Fait qu'on est dans une espèce de folie bureaucratique en ce moment. Pendant ce temps-là, la Belgique a rétabli sa frontière avec la France suite au démantèlement des camps de Calais. Ils ont bloqué plus de 700 personnes en une semaine. Ils en ont renvoyé en France. Ils en ont pris qui étaient déjà sur leur territoire. Ils ont renvoyé en France, même si ce n'est pas des Français, évidemment. Donc, ils voulaient éviter que des milliers de migrants arrivent de Calais pour essayer de passer par la Belgique pour aller en Angleterre. Donc, un autre étau qui se resserre. Et pendant ce temps-là, nos amis de la Hongrie, le gouvernement d'extrême droite de Viktor Orban, veut faire un référendum au printemps sur les quotas, donc accueillir de migrants accueillir, parce que lui, évidemment, il est contre. Il veut consulter le peuple. J'aime bien la citation. Nous pensons qu'introduire des quotas d'installation de migrants sans l'aval du peuple est tout simplement un abus de pouvoir. Quand on sait que lui, il a à peu près fermé toutes les ONG, il empêche les services aux itinérants, il empêche les services aux femmes, donc c'est merveilleux. Il doit consulter la population pour des migrants, pour des quotas de migrants. Alors, petite bonne nouvelle là-dedans, il y avait un référendum en Suisse le 28 février. Vous savez que le gouvernement de Suisse actuellement est d'extrême droite aussi, c'est l'Union démocratique du centre, ça s'invente pas, mais c'est d'extrême droite nationaliste populiste. Et il y avait un référendum le 28 pour autoriser le renvoi immédiat des étrangers qui ont déjà été condamnés pour un crime de toute nature dans les 10 dernières années et qui en commettraient un deuxième. Donc, c'est le système du « two strike you out » au lieu du « three strike you out », mais c'est un peu le même système. Et on parle d'avoir participé à une bataille, d'avoir brûlé un feu rouge. Là, ça peut être deux infractions de ce style-là. Donc, toute personne qui n'est pas citoyen, là, il peut être résident, ou peut être envoyé, aurait pu être envoyé avec cette procédure-là. Il faut savoir qu'il y a 6 ans, l'UDC avait réussi à gagner un référendum à 53% pour accélérer le renvoi des criminels étrangers entre guillemets, mais là, ça a été battu à 59%, donc le 28 février. Et peut-être dire qu'en 2014, pour donner une idée, il y a eu 3900 personnes d'expulsés en Suisse, donc d'immigrants expulsés, contre 500 normalement. Donc, cette mesure-là, en 2010, avait eu son effet. Non, mais celle-ci, en 2016, n'a pas passé. Donc, c'est déjà ça de gagner. Pour rappeler que l'UDC avait réussi à avoir des référendums gagnants pour interdire la construction de minarets, par exemple, dans le passé, et contre l'immigration de masse aussi. Mais il faut dire qu'à ce référendum-là, il y a eu une bonne campagne des antiracistes. Il y a eu un taux de participation de plus de 40%, ce qui est assez rare pour un référendum. Il y a eu beaucoup de publicité, beaucoup d'informations. Donc, ça a bien marché. Je voulais juste faire le contraste pour les dernières minutes qui me restent avec ce qui se passe ici au Canada rapidement. Parce que, on a un nouveau gouvernement fédéral. L'immigration, c'est une juridiction fédérale. Les conservateurs avaient fait beaucoup de dommages depuis 10 ans. Et là, quelques nouvelles qui paraissent intéressantes, c'est sûr, parce que Trudeau, essaie d'éliminer l'héritage conservateur. Donc, ils ont abandonné l'appel qui contestait la libération sous caution d'Omar Kader, par exemple, dans les dernières semaines. Ils ont rétabli la couverture des soins de santé pour les réfugiés qui souhaitent s'établir au Canada. Ça va être effectif à compter du 1er avril. C'est 6 millions par année. Les conservateurs avaient commencé à mettre la hache là-dedans en 2012, mais ils avaient essuyé beaucoup de revers en cours. Donc, les libéraux font juste annuler les appels que les conservateurs avaient demandés. Et la facture, depuis ce temps-là, était refilée aux provinces. Donc, il y avait vraiment un imbroglio là-dessus. Sinon, assez important, la semaine passée aussi, la fameuse loi des conservateurs qui enlevait la citoyenneté à des gens qui ont la double citoyenneté pour des crimes contre l'État. Donc, c'était terrorisme, crime, toutes sortes de crimes contre l'intérêt national. Ça a été enlevé. Et aussi, on a un petit peu rendu un petit peu moins sévère les critères pour que les personnes puissent demander la citoyenneté, dont le nombre d'années passées au Canada, par exemple, tout ça. Donc ça, c'est des petites réformettes. Mais entre-temps, il y a eu un gros reportage de Radio-Canada il y a 2 semaines qui dit qu'au Canada, on est toujours un des champions dans l'emprisonnement et la détention des demandeurs de statut. Entre 4 et 6 000 personnes par année sont emprisonnées au Canada depuis 10 ans, dont des centaines d'enfants. Ça, c'est un rapport de l'ONU, du HCR, qui est sorti à l'automne, mais qui a été ressorti dans les médias il n'y a pas longtemps. Et on dit que 90% des demandeurs détenus au Canada ne sont pas pour des motifs de sécurité, mais bien pour des motifs administratifs, de vérification d'identité ou de choses comme ça. Ils sont emprisonnés dans les centres qu'on connaît comme à Laval, Toronto, Vancouver, évidemment, et dans les provinces ou les régions où il n'y a pas de centre de détention pour migrants en tant que tel. Les gens sont emprisonnés dans des prisons provinciales avec d'autres personnes qui ont commis des crimes en tant que tel, bon, entre guillemets, mais ils sont mêlés à la population générale des détenus. Donc, ils sont soumis aux mêmes conditions donc que des personnes qui ont été condamnées devant les tribunaux. Puis là, on parle de gens, de femmes, d'enfants et d'hommes qui sont seulement là parce qu'ils n'ont pas les bons papiers ou sont arrivés de façon dite illégale. Donc ça, c'est la réalité donc qu'on vit dans les prisons actuellement. Et ben évidemment, la détention qui devrait être la dernière mesure quand on a besoin de vérifier une identité ou de traiter un dossier est devenue la norme. Donc, la majorité des gens sont détenus quand ils arrivent ici pour demander le statut de réfugié. Donc, on dénonce la détention d'enfants, la cohabitation avec d'autres criminels et le faible recours aux solutions de rechange, comme je disais tantôt. C'est drôle parce que les libéraux ont vraiment fait beaucoup de photos et de reportages sur l'arrivée des Syriens, comment c'était une bonne chose, des dizaines de milliers. Mais sur ce dossier-là, il n'y a aucun ministre qui a voulu faire l'entrevue. Les médias n'ont pas réussi à avoir aucune réaction, sauf une réaction par courriel du ministre de la Sécurité publique, qui dit quand même, c'est assez intéressant, je finis là-dessus, l'agence s'efforce de traiter toutes les personnes, l'agence des services frontaliers du Canada, s'efforce de traiter toutes les personnes avec le plus grand respect et la plus grande sensibilité en respectant ses valeurs fondamentales. L'agence a en place des procédures de détention nationale qui respectent le droit canadien. Mais bon, dénonciation de toutes parts, et on emprisonne de plus en plus les demandeurs de réfugiés, pas juste pour 3-4 jours pour vérifier, ça peut aller jusqu'à des mois et des années, comme on sait. Donc, voilà les deux facettes de ce nouveau gouvernement Trudeau. Les petits coups d'éclat sympathiques, mais aussi sur le fond, il n'y a pas de changement tant que ça pour l'instant.
Ça va durer 4 ans, fait qu'on aura le temps de revenir
au moins 4
ans. Nombreuses chroniques des apatrides anonymes qu'on aime toujours beaucoup.
Merci, Christian.
Alors, merci beaucoup, Mathieu.